Et le bagad là-dedans, le bagad, comment est-il né, puisque le bagad est de formation récente?
Le bagad est né en Bretagne en 1948. Enfin, il y a eu quelques tentatives avant. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que tu parlais d'instruments tout à l'heure, tu parlais de biniou. Bon, les vieux sonneurs ne connaissaient pas ce que nous appelons nous le biniou brass, c'est-à-dire la cornemuse à trois étages, comme certains sonneurs l'ont appelé, certains vieux sonneurs, avec un peu de mépris, bien sûr. Cette cornemuse est rentrée en Bretagne pour la première fois en 1895. C'est Charles Le Goffic qui en a acheté une en Écosse pour le groupe qu'il fondait et qu'il dirigeait à Lannion, qui s'appelait les Chantres du Trégor. Il y en a eu d'autres qui sont rentrés par la suite. On en a retrouvé après la guerre de 14-18, les trains qui débarquaient de Grande-Bretagne, ou les avions, les bateaux qui débarquaient de Grande-Bretagne à Brest, et les troupes britanniques, donc écossaises pour une bonne part, ou canadiennes, qui avaient donc des musiques militaires écossaises à base de à base de cornemuse et de tambour, ont laissé des instruments derrière eux. Nous en avons trouvé. Entre les deux guerres, on en a trouvé quelques-uns. Pas tous bons d'ailleurs et pas tous complets. Après la guerre de 39-40, ça a été un peu le même problème. Il y a eu ce bombardement de la plaine de Beau à Rennes, où tout un train de munitions a explosé, mais aussi les trains qui se trouvaient à proximité et qui ont été détruits, dans lesquels il y avait énormément d'approvisionnement pour les troupes britanniques, dont des cornemuses en grande quantité. On trouvait par exemple à Champy, dans les fermes, des outils qui étaient emmanchés avec des morceaux de sutelle ou des morceaux de lévriade ou des souches de biniou. Ça, c'était une chose qui était courante. Et donc Doric Levoyer s'est mis à fabriquer des cornemuses, et c'est ça qui a été la base du bagad, parce qu'on ne pouvait pas faire un bagad avec le biniou d'autrefois, que nous appelons nous biniou cause. En réalité, on devrait dire gwir biniou, parce que c'est le vrai breton. Et le premier bagad, on a essayé de le lancer pour la première fois en 1943 au patronage Charles de Blois à Guingamp. Malheureusement, les instruments ne sont jamais arrivés et les jeunes se sont lassés, ils ne savaient pas où nous allions, ce qu'on voulait faire, personne n'avait jamais entendu parler de ça avant. Ils sont venus parce qu'ils cherchaient à faire quelque chose et ils voulaient s'occuper. Ils n'étaient pas attirés particulièrement par de la musique parce qu'ils ne savaient même pas que c'était de la musique que nous allions faire. En fait, c'est au premier stage BAS de 1946 à Argol qu'on a pratiquement défilé en formation de bagad. Puis il y a eu, en 47, à se créer au 71e bataillon d'infanterie de Dinan, avec des sonneurs qui se trouvaient à faire leur service militaire dans cette compagnie, dans ce bataillon, excusez-moi, à faire un premier bagad. D'ailleurs, Émile Alain, Roger Loirère et quelques anciens de la BAS se trouvaient à cette occasion-là à Dinan et ont donc fait partie, si l'on veut, du premier bagad, la première formation de bagad. Mais le premier bagad local a existé réellement. Je l'ai fondé à Carhaix en 1948, au sein de l'Amicale des Cheminots. Nous étions 35 à 40 au départ, puis ça s'est très vite décanté et nous sommes restés entre 25, 28, 30. Évidemment, c'est le groupe qui a servi de cobaye.
Eh bien, Polyc, je pense qu'il y a eu beaucoup de chemin parcouru depuis ce premier bagad des cheminots de Carhaix. Alors, comment ça s'est passé? Comment avez-vous fait pour parcourir ce chemin? Parce qu'il a fallu faire des méthodes, je suppose, apprendre aux gens à jouer, il a fallu faire un travail de Romain.
Oui, quand on voit ça avec le recul, on est un petit peu effaré de ce qui a pu se passer. Tout d'abord, donc, ce premier bagad s'est créé en 1948. Il était tout seul en Bretagne encore jusqu'en 49. Et puis, comme tout ce qui est nouveau en Bretagne, puisque le breton a l'instinct grégaire, il suit pas forcément ce qui est bon et pas forcément ce qui est digne d'intérêt, mais là, il a quand même suivi. En quelques années, 2, 3 ans, nous nous sommes trouvés à la tête d'une douzaine de bagadous. Pratiquement jusqu'en 1951, il s'en créait tous les ans 3, 4, 5. Rostrenin, certains sont tombés d'ailleurs, comme Rostrenin, Melcarré, Quimper, Vannes, Quimperlé. Quimperlé a été le deuxième. Non, Rostrenin le deuxième, Quimperlé le troisième, Quimper le quatrième. Puis il y a eu Rennes, puis il y a eu Nantes, puis il y a eu l'émigration. À un moment donné, en 1952-53, nous avions plus de 100 bagades. Évidemment, on n'avait plus le temps matériel de s'occuper de quoi que ce soit. N'importe qui montait un bagade, c'était une mode qui a été passagère, c'est-à-dire ce que nous constatons, ce que nous trouvons aujourd'hui. Et ce que nous constatons, quoi, c'est qu'après décantation, il reste finalement du très bon. Pas forcément que du très bon, mais il reste quand même du très bon. Au moins, les bagadous qui existent aujourd'hui, ce sont des bagadous qui y croient. Et puisque tu parlais de méthode, ce sont ceux qui, comme par hasard, ont bien étudié les méthodes et ont fait de ces méthodes la base de l'enseignement du groupe. Autre, ça a été très, très empirique pendant plusieurs années, cette histoire de Bagadou, de 1948 à 1953, 52-53, c'était très empirique. Chacun faisait ce qu'il pouvait, on avait un mal fou à s'accorder. Pourquoi ? Parce que les anges n'étaient pas toujours excellentes, les bombardes n'étaient pas toujours de la même provenance, les bignoux n'étaient pas forcément, étaient faits pour jouer en couple, ils n'étaient pas forcément adaptés au jeu de Bagadou, où il faut absolument que tous les instruments soient les mêmes, avec le même timbre. Sinon, nous n'obtenons pas une uniformité de son et une qualité de jeu. C'était très difficile. Le doigté que nous avons adopté étant le doigté du piping écossais, il devenait nécessaire d'adapter le lévriat du bagpipe lui-même, enfin de notre bignou brass, à ce piping écossais. Enfin, ça a été un travail de longue haleine. Maintenant, avec le recul, on se dit que ces années-là étaient pénibles, mais elles étaient quand même enthousiasmantes.
Et comment ce bagad, comment ces nouveaux sonneurs ont-ils été perçus par la population bretonne, d'une part, par les autorités, par les musiciens plus traditionnalistes, plus classiques, disons, d'autre part?
Bon, c'était très variable. Il y a des secteurs où le bagad a tout de suite été implanté, admis et adopté par la population. Et il y a des secteurs où il ne l'est pas encore, où on considère que la musique bretonne, d'abord, c'est une musique une petite musiquette, sans intérêt. Je considère évidemment que la musique bretonne, pour moi, c'est une énorme chose, c'est une chose de grande valeur. Qu'il existe des professeurs de conservatoire pour considérer qu'elle ne vaille rien, ça les regarde. Je ne serai pas d'accord avec eux, je suis prêt à en discuter quand ils le voudront, pièce en main, pour leur prouver que c'est une musique de grande valeur, ne serait-ce que parce qu'elle est unique en Europe occidentale, et si toute l'Europe occidentale a abandonné, voici 2 siècles et demi ou 3 siècles, tous les modes musicaux sauf le majeur et le mineur, nous, Bretons, nous sommes quand même les seuls à les avoir gardés. Nous avons 11 modes musicaux encore utilisés tous les jours, et on compose des gens illettrés musicaux qui ne savent ni écrire une note, ni savent même pas ce que c'est qu'une portée, composent aujourd'hui dans une gamme de mi ou dans une gamme de ré ou une gamme de fa, naturellement, ils le font naturellement.
Bon, Pauline, peux-tu nous dire d'où vient ce nom de bagad? Parce qu'on parle de bagad, de bagadou, de kevren, de kevrenou, exactement, à quoi ça correspond?
Alors, au début, quand s'est créé le premier groupe à Carré, automatiquement, nous avons été rattachés à la clique de cuivre des cheminots. Et les journalistes locaux ont appelé ça la clique des bignots de Carré. Bon, ça a duré quelques années. Nous, à la BAS, déjà, dès 1942-1943, nous nous étions organisés et, selon une certaine décentralisation, une section locale, comme un pays, si l'on veut, comme le Glazik ou le Duic ou le Rouzik ou le Bigoudin ou le Léon, ou même une partie du Léon ou au Léon, bas Léon, devenait pour nous une kevren, c'est-à-dire avec le radical keo, quoi, une section de la BAS. Au départ, il y a donc eu, après le mot clic, on a utilisé le mot kevren. Mais le mot kevren n'a jamais été un groupe. La kevren, c'est un ensemble de groupes. Ça réunit tous les sonneurs d'un secteur défini. D'un secteur qui, si possible, porte le même costume, parle le même dialecte et possède en général le même répertoire. Puis le mot bagad, qui n'est qu'une abréviation de bagad zondérienne, parce qu'on peut dire une troupe de soldats, c'est bagad zoudardet, une troupe de garçons, c'est bagad, avec le mot qui correspondra si ce sont des scouts ou si ce sont des jeunes qui font de la pêche à la ligne. Et bagad zondérienne, c'est une troupe de sonneurs. Et certains voient dans le mot bagad aussi, le vieux mot celtique pagode, ces troupes qui rasaient tout ce qu'ils trouvaient sur leur passage autrefois. En tout cas, par abréviation, on l'a appelé bagad. Je crois que c'est un mot qui rentre dans les mœurs et puis qui finalement, on dit ce qu'il veut dire. Pour les jeunes qui aujourd'hui ont 25-30 ans, ça a toujours existé. Un bagad, c'est ce qui correspond au pipe band.